Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute!
Alléluia, Seigneur, tu as dit quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Seigneur, nous savons que le sens de tes paroles allait bien au-delà d'un pain matériel. Mon âme a besoin d'un pain céleste. Et Jésus, tu as dit, je suis le pain, Zoé, le pain de la vie éternelle. Tu as dit, celui qui me mange. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur. Une fraîche parole du Saint-Esprit, Seigneur. Simple. Une grande simplicité. L'Évangile doit rester simple. Mais plus qu'une parole qui touche notre intellect, plus qu'une parole qui touche nos émotions, Seigneur. Une parole qui entre en nous, Seigneur. Littéralement comme une sorte de digestion intérieure qui vient nous énergiser, qui vient nous nettoyer, qui vient nous purifier, Seigneur. Qui vient même opérer en nous comme un glaive à double tranchant, Seigneur. Les prophètes ont vécu des expériences avec toi, Seigneur, oui. Tu leur as demandé de presque manger quelque chose qui rentrait en eux et qui parfois leur faisait mal intérieurement, mais pour leur bien, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, nous te demandons ce soir cette parole, comme le prophète a dit, qui était douce, comme le miel, hallelujah, dans sa bouche, Seigneur. Seigneur, tu nous aimes ce soir, Seigneur. Tu aimes chaque personne qui est ici aujourd'hui, hallelujah. Personne n'est ici par hasard en vain. Nous avons un rendez-vous divin avec toi ce soir, Seigneur Jésus. Tu as une parole pour nous, Seigneur. Seigneur, je prie qu'elle bénisse quelqu'un comme elle m'a béni cette parole. Comme elle m'a béni et bien au-delà de tout le bien qu'elle a pu me procurer, Seigneur, je prie qu'elle opère quelque chose de fortifiant, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu ce soir, si vous le voulez bien. Je vais aller directement au message. Je vous invite à tourner avec moi sans plus tarder dans le livre des psaumes, le psaume 57, si vous le voulez bien. Le livre des psaumes. Et le titre de mon message est celui-ci, « Un sens à ma vie ». Un sens à ma vie. Le monde évangélique chrétien s'est développé de façon exponentielle dans les 20 dernières années, tout particulièrement en France. Et le monde chrétien évangélique est très, très large aujourd'hui. Il y a de très belles choses qui se font. Il y a des œuvres extraordinaires. Mais en même temps, il y a parfois le meilleur et le pire dans le monde évangélique. Et il faut faire attention. Et je remarque qu'une partie, pas tous, hein, il y a des chrétiens qui sont actifs, qui aiment Jésus, qui aiment leur prochain, mais il y a une partie du monde chrétien qui se referme sur soi-même et qui pense à soi, en fait, qu'à soi. C'est tout à fait normal qu'un nourrisson, un petit bébé, soit dans une incapacité d'aider qui que ce soit autour de lui. Vous êtes d'accord avec moi? Le petit bébé, il demande qu'à boire, manger, dormir et être dans les bras de sa mère. Il est incapable d'aider les gens autour de lui. Mais dans la vie chrétienne, au tout début, quand tu viens à Jésus, tu es dans ce début de la foi et tu as tellement besoin d'être aidé de Dieu à droite et à gauche, et c'est tout à fait compréhensible. Mais si après 15 ans, 20 ans de vie chrétienne, tu es toujours un nourrisson, il y a un problème de croissance, on se comprend. Hein? Et je remarque qu'une partie du monde chrétien aujourd'hui reste à cette étape de leur foi, en fait. Où la louange est pour moi, la parole est pour moi, où tout est pour moi, où la prière est pour moi, le pasteur vient m'aider, tout le monde, c'est... Et non, en fait. Nous sommes appelés à grandir en Jésus-Christ et à avoir un évangile qui va vers l'extérieur. Parce que lorsque je regarde ce qui se passe avec cette génération, je dis, Seigneur, aide-nous à ne pas manquer à toucher cette génération. La génération de jeunes adultes aujourd'hui est dans un désespoir, une crise existentielle incomparable. Et alors que certains chrétiens s'enferment Je le dis avec amour ce soir, mais il faut appeler les choses par leur nom. Parfois, ce sont des balivernes qui sont enseignées, des futilités, ou sur la destinée des enfants de Dieu, où on crée une sorte d'évangile égocentrique, où tout ce que le chrétien cherche est à accomplir leur destin, leur destinée, je, moi. Et je l'ai souvent dit ici, c'est comme s'ils deviennent un peu le soleil et tout le système de Dieu tourne autour d'eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Et c'est un appât pour les âmes qui sont faibles dans la foi. C'est un appât. Et c'est parfois, la Bible parle, parfois ce sont littéralement des loups, des faux docteurs qui veulent juste tirer un profit, un bénéfice personnel de ces gens-là. Et pendant ce temps, pendant que certains chrétiens, malheureusement, se perdent, ce sont de vrais enfants de Dieu, ils se perdent à chercher leur destinée, à entrer dans leur destinée, à atteindre leur destinée, je vous dis des choses qui sont enseignées, à enfanter. Le Seigneur, un gars disait ça, je disais, c'est pas possible. Faut à enfanter ta destinée. J'ai jamais encore entendu un message comme ça. C'est quoi ce délire? Et à la manifestation de ta destinée. J'aimerais vous dire ceci. Le jour où vous êtes arrivé en Jésus-Christ, vous avez trouvé votre destinée. Il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien à atteindre, il n'y a plus rien à enfanter, à manifester. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un peuple chrétien qui est tellement à la recherche de son épanouissement personnel à travers ce fameux mot, la destinée, que nous sommes en train de manquer toute une génération de non-chrétiens qui, eux, cherchent vraiment leur destinée. J'aimerais vous dire ceci ce soir. Le chrétien n'a plus à chercher sa destinée. Elle est en Jésus-Christ. Il l'a. Et il devrait plutôt se tourner vers ceux qui cherchent vraiment leur destinée et qui cherchent un vrai sens à leur vie. Et on enseigne parfois toutes sortes de choses aux gens. Ton attitude va déterminer ta destinée, tout ça. Il y a du vrai là-dedans. Mais je veux vous montrer ce soir une vérité fondamentale pour avoir un vrai sens à ma vie, moi, en tant que chrétien. Amen. Amen. Ton confident détermine ta destinée. Ton confident, on cherche toutes sortes de recherches pour s'épanouir, pour trouver le sens de sa vie. Et je regrette que parfois on enseigne aux chrétiens qu'eux aussi aient besoin de trouver le sens de leur vie. En fait, c'est qu'ils n'ont pas rencontré Jésus, c'est pas possible. Moi, le jour où j'ai rencontré Jésus, j'ai trouvé le sens de ma vie. Je veux vivre pour lui. Je veux l'honorer, je veux parler de lui. J'ai trouvé le bonheur. Maintenant, le sens de ma vie, c'est simplement rien plus compliqué que d'aller partager le bonheur que j'ai trouvé en Jésus. S'il faut enseigner aux chrétiens à trouver le bonheur et trouver le sens de leur vie, leur destinée, c'est que sont-ils vraiment chrétiens? Voyez-vous, je m'en vais ce soir. Je le dis avec amour, avec amour. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Et nous pouvons être en train de manquer toute une génération d'or qui sont là, qui sont dans vos classes d'école, vos classes d'université, qui sont vos collègues, vos voisins, vos proches, qui, eux, cherchent vraiment un sens à leur vie. Parce qu'eux sont vraiment très, très inquiets de la fin du monde. C'est impressionnant, hein, que dans certains milieux chrétiens, je ne dis pas partout, il y a des chrétiens qui sont à genoux, il y a des chrétiens qui prient, il y a des chrétiens qui cherchent la face de Dieu, il y a des chrétiens qui voient l'heure à laquelle ils vivent, mais il y a une partie du peuple chrétien qui s'amuse, qui est dans un genre de monde évangélique fun, alors que le monde non chrétien, lui, s'inquiète vraiment de la fin du monde. Et nous avons un rendez-vous avec cette génération. Il ne faut pas le manquer. Alors, j'aimerais vous montrer ce soir deux hommes. Parce que chacun d'entre nous, dans notre vie, même en tant qu'enfant de Dieu, on va se retrouver à un moment donné au fond d'une grotte, au fond d'une caverne, chrétien ou pas. Et c'est là que tout peut changer. Et j'aimerais vous montrer qu'au fond de cette grotte qui est mentale, hein, c'est une attitude mentale, c'est quelqu'un qui est replié sur soi-même, c'est peut-être à travers une épreuve que tu vis, une saison de ta vie, des questions, des choses que tu es en train de vivre que tu ne comprends pas et tu te retrouves, tu dis ma vie est comme repliée dans une... Je rentre le soir dans mon appartement, il faut tout de suite que j'allume la télé, je ne peux pas me retrouver dans le silence, je ne veux pas me retrouver dans la solitude, je n'aime pas cet état d'esprit. Et pasteur Christian, je suis un enfant de Dieu et tout ce que tu as dit dans les dernières minutes, j'aspire à être du bon côté, j'aspire, mais je suis dans une certaine douleur et souffrance. comprends ce soir. Et où est Dieu dans tout cela? Je vais te montrer que Dieu conduit tous ses enfants dans une grotte pour leur bien. Il faut appeler les choses par leur nom. Mais je vais vous montrer deux hommes. Le confident qu'ils ont choisi a déterminé leur destin. Vous voulez vraiment parler de destinée? Ton confident va déterminer ta destinée. On parle beaucoup de reprendre sa vie en main, de reprendre les choses en main, tout ça. Il y a une part de vérité dans tout cela. Mais la Bible enseigne, et je vais vous le prouver ce soir. Hallelujah. J'aime quand les gens ils me regardent et qu'ils ne sont pas trop convaincus. Et j'aime prouver avec la parole de Dieu. Je vais vous prouver bibliquement que votre confident va déterminer votre destinée. Et j'espère que votre confident, c'est Jésus-Christ. C'est avec moi ce soir? Le premier, c'est Lot. Lot est le neveu d'Abraham. Abraham est un homme qui marche avec Dieu. Lot a vécu avec un homme qui marche avec Dieu. Et là, c'est le premier danger. Est-ce que tu marches avec Dieu ou est-ce que tu marches avec un homme qui marche avec Dieu? Vous n'êtes pas appelé à marcher avec quelqu'un qui marche avec Dieu, vous êtes appelé à marcher avec Dieu. Vous n'êtes pas appelé à suivre le pasteur, vous êtes appelé à suivre Jésus. Alléluia. J'aimerais que vous me gardiez quand même comme pasteur, mais bon. Lot a un problème. Il marche avec Abraham qui marche avec Dieu, mais Lot, il n'y a rien qui indique qu'il marche avec Dieu en passant. Vous me direz, oui, mais Pierre dit qu'il était Lot le juste. Oui, oui, oui. Je vous avais raison, la Bible le dit. Et Dieu a fait prospérer Lot. Dieu a béni Lot. À un tel point qu'il ne pouvait plus vivre avec Abraham. Leur cheptel, leur prospérité, les troupeaux, les gardiens des troupeaux ont commencé à se prendre la tête. Ils ont dû se séparer. Et regardez ce que ça dit. Et Lot regarda la vallée de Sodome et Gomorre, qui était verdoyante. Et c'est écrit dans la Bible. Il dit, comme... Et regardez le paradoxe des gens qui ne marchent pas avec Dieu. Lot, il dit, c'est comme le jardin d'Éden et comme l'Égypte. Mais quel lien y a-t-il entre l'Égypte et le jardin d'Éden? Alors que dans la Bible, l'Égypte, c'est souvent une image du monde et le jardin d'Éden est souvent une image de la présence de Dieu. Et quand tu ne marches pas vraiment personnellement avec Dieu, tu confonds les choses. Tu crois que certaines choses sont bonnes alors qu'elles ne sont pas bonnes. Et lui, il regarde cette vallée, il dit, mais c'est comme le jardin d'Éden et c'est comme l'Égypte. Ah, tu ne peux pas avoir les deux, mon frère. C'est le ciel ou l'enfer, hein? C'est le monde ou Dieu, hein? Tu ne peux pas avoir les deux, il va falloir choisir. C'est les plaisirs matériels ou les plaisirs spirituels, le bonheur matériel ou le bonheur spirituel, tu ne peux pas avoir les deux. Mais parce que Christian, moi je suis très bien matériellement et spirituellement, amen, alléluia, gloire à Dieu pour toi. Mais il faut choisir dans ton cœur ce que tu vas aimer. Dieu peut donner des choses matérielles, tu n'es pas obligé de t'attacher à ces choses-là, on est d'accord, je ne vais pas aller là. Et le chapitre d'après, un petit peu plus tard, on retrouve Lot, il n'a plus de troupeaux, il n'a plus de serviteurs. Il n'a plus toute la prospérité qu'il avait. Il vit dans Sodome et Gomorre. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il était impossible pour lui d'habiter dans Sodome et Gomorre avec tous ses troupeaux d'animaux. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il est passé de nomade à sédentaire. Il est passé d'un homme qui était prospère avec tout ce que Dieu lui avait donné. Il a dû vendre tout cela, acheter une maison et commencer à vivre dans cette ville de Sodome et Gomorre. Et la Bible dit qu'Abraham a intercédé pour lui. Abraham l'a aimé. Il a prié, a pensé à lui. Et les anges viennent le sauver. Vous connaissez l'histoire. Les anges viennent le tirer de Sodome et Gomorre. Et alors qu'il sort de Sodome et Gomorre, en fait, il doit aller dans la montagne se cacher. Et il demande à l'ange, mais je crains ne pas pouvoir me rendre à cette montagne. Donne-moi d'aller dans ce petit village qui s'appelle Tsoar, juste à côté. Et l'ange dit, OK, vas-y. Et Dieu va épargner la ville de Tsoar. J'aimerais vous montrer quelque chose de très intéressant ce soir, qu'en 2019, il n'y a pas si longtemps que cela, des archéologues ont identifié un lieu qui s'appelle Tal el-Hammam, que vous pouvez aller vérifier, en Jordanie, comme une ville détruite par une énergie environ 1000 fois plus puissante qu'une bombe atomique. C'est l'analyse des archéologues, elle peut être discutable peut-être. Sa destruction aurait touché d'autres villes et villages ayant aussi inhibé l'agriculture et provoqué l'abandon des habitants pendant près de 600 ans sur un rayon d'à peu près 25 kilomètres. Nous croyons, les archéologues croient que c'est une chute d'une météorite, Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir, mais il y a des météorites qui sont tombées sur la Terre et on le voit de l'espace, le cercle que ça fait. Alors qu'à cet endroit, on ne voit pas ce cercle. Certains croient que c'est une météorite. Les enfants de Dieu, nous croyons que c'est la destruction de Sodome et Gomorre, c'est le jugement de Dieu. C'est le feu qui est tombé du ciel. Et regardez ce que le chef de cette équipe archéologique a dit. Les sites de l'est du Jordan Disc, c'est comme un disque, c'est comme un cercle qui a été fait, parce que c'était un groupe de 5 villes à l'époque qui faisaient de l'économie ensemble et c'était très prospère, sont restés inoccupés pendant les 5 à 700 années suivantes. Le phénomène ayant entraîné la destruction de la civilisation de ce disque du Jourdain et repoussant les réoccupations pendant tant de siècles est maintenant mis en lumière grâce aux analyses effectuées par les chercheurs d'impact des 7 universités. 7 universités participent à cette recherche sur ce site que nous croyons qui est le site de Sodome et Gomorre. Le fait que les terres agricoles les plus productives de la région, qui ont soutenu des civilisations florissantes de manière continue pendant au moins 3000 ans, d'après leur analyse, soient soudainement abandonnées et aient résisté à l'habitation humaine sur une si longue période de temps a demandé une enquête. Les résultats de cette recherche concernant l'événement sont actuellement en cours de compilation. Voici leur analyse, leur conclusion. Il est remarquable que Tal el-Hammam et ses voisins aient subi une telle calamité, mettant fin à leur civilisation, uniquement la leur. Et là, je vous ramène. Essayez d'imaginer l'ampleur de ce qui s'est passé quand Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Imaginez le petit village de Tsoar épargné. Imaginez ce que cet homme a vécu, Lot, de voir le feu tomber autour de lui sur toutes les villes, la destruction, le jugement de Dieu, et que lui est épargné. Quelle preuve de l'amour de Dieu envers un homme. Quelle preuve de la fidélité de Dieu qui a répondu à la prière d'Abraham pour Lot. Je vous mets un défi ce soir. Trouvez-moi un endroit dans la Bible. Suivez-moi bien. La Bible dit qu'après cela, Lot eut peur d'habiter dans cette ville de Tsoar. La Bible ne dit pas les raisons. Mais qu'il est allé vivre, il est allé se cacher dans une grotte, dans une caverne, s'isoler. Et la Bible ne dit plus rien de lui. Tout porte à croire, d'après les spécialistes de la parole de Dieu, que Lot a terminé sa vie au fond d'une caverne. Impressionnant, hein? Il a perdu ses filles. Histoire d'inceste, incroyable. Il a perdu sa femme. Il a perdu tout ce qu'il avait. Il va terminer sa vie isolé dans la solitude au fond d'une caverne. Et quand on lit la Bible, je suis ouvert. Mais d'après ce que j'ai lu, je n'ai trouvé aucun endroit où Lot, où c'est écrit dans la Bible, que Lot a, du fond de sa caverne, du fond de son désespoir, du fond de son deuil, du fond de son découragement, du fond de sa peur, la peur qu'il avait aussi, du fond de toute l'épreuve qu'il a vécue, je ne trouve aucun endroit dans la Bible où qu'il est mentionné que Lot a crié à Dieu et s'est tourné vers Dieu. Aucun endroit. Mais vous me direz, mais pasteur Christian, c'est écrit dans Pierre que Lot était juste. Et oui, si la Bible dit, c'est probablement vrai. Amen, alléluia. Et je crois qu'il y a des gens, je crois qu'il y a des enfants de Dieu qui vont aller au ciel, qui sont sauvés. Paul dit, ils sont sauvés comme passant par le feu. Mais Dieu avait tellement plus pour eux. Des enfants de Dieu parfois repliés au fond d'une solitude, au fond d'une douleur, au fond de quelque chose qu'ils vivent, au fond d'une caverne, et ils restent là. Ils croient en Dieu, ils suivent le Seigneur. Mais j'aimerais vous dire ceci ce soir. Toute la Bible m'enseigne que si Lot avait crié à Dieu du fond de ce qu'il a vécu, le Seigneur serait venu. Le Seigneur aurait relevé cet homme. Le Seigneur aurait donné un témoignage à cet homme. Le Seigneur aurait béni cet homme. Vous êtes avec moi ce soir? Et un autre homme que je vais vous montrer ce soir. Hallelujah. Lot représente quelqu'un qui se replie sur lui-même. Aucune mention qu'il a crié à Dieu, aucune mention que Dieu l'a tiré de cette grotte, et tout porte à croire ce soir qu'il a terminé sa vie au fond de cette grotte. Un autre homme ce soir, qui a vécu aussi la peur,
qui a vécu de tout perdre. Vous connaissez David. David a tué Goliath. David marchait devant les armées de Saül. David a connu des jours de joie, de victoire spirituelle extraordinaire, d'avancée. Dieu se servait de lui. David a connu de beaux jours avec le Seigneur. Il s'est retrouvé même à calmer un roi qui était troublé par un mauvais esprit. Et le roi a commencé à lui lancer de la lance et David a commencé à l'éviter. Et puis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là? Et finalement, non, il faut que tu fuis. Et David fuit. J'en ai parlé dimanche matin. Il fuit chez Achish. Il fuit chez les Philistins. Il fuit à Gath, là d'où vient Goliath. Je ne veux pas refaire mon message de dimanche matin. Et les Philistins veulent s'emparer de lui. Il fait le fou et tout ça. Il écrit le psaume 34. Et la Bible dit qu'après cela, David fuit encore dans l'autre sens. Il va à la caverne d'Abdoulam. On ne sait pas où est cette caverne parce qu'il y a un groupe de cavernes. Il y a beaucoup de cavernes dans cette région. Mais là, on retrouve ce soir un jeune homme qui a tout perdu. Tout perdu. De fort, il est devenu faible. De fort, il est devenu fragile. D'entouré, il est devenu seul. De tout ce qu'il avait, il vivait avec le roi. Il se retrouve au fond d'une caverne. Mais regardez avec moi le psaume 57 ce soir. Hallelujah. Le psaume qu'il a écrit lorsqu'il a fui. Au chef des chœurs, 57, au chef des chœurs, sur la mélodie, ne détruit pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la grotte poursuivi par ceux. On ne sait pas exactement c'était où. Mais on sait, nous savons, que David aussi, comme Lot, a fui dans une grotte parce qu'il avait peur. Mais là, ça sera différent. Ce jeune homme va se confier en Dieu. Il va crier à Dieu. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. Je ne vois pas ça chez Lot. C'est toi, c'est en toi que mon âme cherche un refuge. En d'autres mots, il est en train de dire, je ne cherche pas refuge dans une grotte physique. Je ne cherche pas refuge dans l'isolement, dans la solitude. Je ne cherche pas refuge à me replier sur moi-même. Je ne cherche pas refuge dans l'alcool, la drogue, des amis, les boîtes de nuit, ceci. Je ne cherche pas le refuge dans le travail, dans le carriérisme. Je ne cherche pas le refuge en m'isolant toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. Je ne cherche pas refuge en m'éclatant en passant toute ma vie sur Internet. Je ne cherche pas refuge en me coupant complètement de la société. Je cherche refuge en toi, dit David. En toi, Seigneur. J'aime bien cette version anglophone ESV, English Standard Version, qui dit ceci. Car en toi, mon âme se réfugie. À l'ombre de tes ailes, je me réfugierai. Jusqu'à ce que les tempêtes, impressionnant hein, ce qu'il dit, pas la tempête, il dit les tempêtes. Parce que David vient d'en essuyer deux belles. Le roi Saül veut sa peau, le roi des Philistins veut sa peau, et David ne sait plus où se tourner, plus qu'une tempête, plusieurs tempêtes. Jusqu'à ce que les tempêtes de destruction passent, je crie au Dieu très haut, à Dieu qui accomplit son dessein pour moi. Et vous pourriez dire littéralement, à Dieu qui accomplit le destin pour moi. Vous voulez votre destinée? Vous l'avez trouvée en Jésus. Hallelujah. La King James Version dit ceci, car mon âme te fait confiance. Je construis mon refuge. Intéressant, hein? Je construis mon refuge à l'ombre de tes ailes. Je suis au fond d'une caverne. Mais spirituellement, je construis, je viens me cacher à l'ombre des ailes de Dieu et je construis mon refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que ces calamités, au pluriel, soient passées. Je crierai vers le Dieu très haut qui perfectionne toutes choses pour moi. Amen, hallelujah. Lot est allé vivre dans une caverne et on n'a plus jamais entendu parler de lui. David a fui aussi dans une caverne. Mais parce qu'il a crié à Dieu, plus qu'une fois, parce qu'il a fait de Dieu son refuge, parce qu'il s'est confié en Dieu, je ne peux pas être plus simple ce soir, eh bien, sa caverne n'est pas devenue sa fin. L'histoire de Lot se termine, il est allé vivre dans une caverne, on n'entend plus jamais parler de lui, c'est terminé. Mais pas David.
Et je vois une seule chose, une seule différence entre les deux. On pourrait dire que Lot est juste et que David est juste. Ah, mais pasteur Christian, David avait peut-être un plus grand appel. Je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Je veux rester dans une vérité très simple et fondamentale de la parole de Dieu. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Et un juste, je ne le vois pas. Non, il termine sa vie comme ça. Et l'autre, il crie à Dieu. Il fait de Dieu son refuge. Plus qu'une fois, hein, toute sa vie. Et regardez, parce que David, au fond de sa caverne, dans sa peur, dans sa fragilité, dans ses questions, dans ses combats, dans ses pensées. Parce que tu peux être loin d'Akish et loin de Saül et tu peux les avoir dans ta tête. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Tu peux quitter le bureau et le bureau reste dans ta tête. Tu peux fermer le dossier et dire « je pense plus, tu as de la difficulté, ça reste là ». Mais David, parce qu'il a fait de Dieu son refuge, alors qu'il est au fond de cette caverne, et même il le dit à un moment donné dans un de ses psaumes, « Viens m'aider avec les pensées qui me troublent. » David confiait tout à Dieu. Alors, sa caverne est devenue sa maison de prière. Sa caverne est devenue la salle d'attente. J'ai raison. Tu vois, chez le médecin, t'attends que le médecin te soigne et te guérisse. Avant, tu es dans la salle d'attente. David, je ne sais pas combien d'heures, combien de jours, combien de temps il est passé dans cette caverne. On sait que parfois il a voyagé, qu'il y est revenu. Mais David a dû passer parfois des heures dans cette caverne. Parfois des journées torrides en Israël, de chaleur. Il a dû aller se mettre à l'ombre, et seul, penser. Mais il a fait de cet endroit une salle d'attente. Il le dit lui-même, il dit « J'attends le Seigneur ». Cette salle d'attente est devenue un bloc opératoire. Parce que lorsque Dieu parfois permet un moment comme ça dans ta vie, et que tu ouvres ton cœur à Dieu, que tu commences à te réfugier en lui, le Seigneur commence à opérer des choses dans ton cœur. Cette salle d'attente, ce bloc opératoire, cette maison de prière, cette caverne est devenue une faculté de théologie. Parce que la théologie, en un seul mot, théologie, c'est la connaissance de Dieu. Et David a appris pendant ces années, certains disent 7 ans, 10 ans, et David a appris à travers ces années à connaître Dieu. Il ne l'a pas connu dans des livres d'école, il l'a connu sur le terrain. Cette caverne est devenue son cabinet pour écouter et compatir. Parce que le verset juste après, dans 1 Samuel, dit que d'autres sont venus. Près de 400 personnes qui avaient des problèmes avec Saül sont venues autour de David. Et de sa douleur, dans son isolement, dans sa solitude, dans ce qu'il vivait, le Seigneur a commencé à le toucher. Le Seigneur a travaillé son cœur. Le Seigneur a relevé ce jeune homme. Il était très jeune, hein? Et là, il y a des gens qui ont commencé à arriver. Que eux aussi avaient été blessés, que eux aussi avaient vécu des choses. Ils ont commencé à se rapprocher de David. Et David, en fait, tu ne peux partager que ce que tu as vécu. Donc David a dû leur dire, j'ai fait du Seigneur mon refuge. Toi aussi, fais du Seigneur ton refuge. Vous êtes avec moi ce soir? Je me suis confié en l'Éternel. Mais si tu savais comment j'étais quand j'ai fui Saül et puis Akish et les Philistins, et j'avais tout perdu. Et là, moi, je t'accueille. Mais moi, au début, il n'y avait personne pour m'accueillir. Mais je me suis réfugié en Dieu. Et la présence de Dieu est venue et Dieu m'a touché. Et le Seigneur m'a relevé. Et j'aimerais te dire, Dieu peut le faire pour toi aussi. Et 1, et 2, et 3, et 10, et 100, 200, 300, 400 personnes autour de David. David, de sa caverne, est née une source de générosité. Commencer à aider les gens, à s'organiser. Je ne vais pas aller trop loin, mais on voit dans ces années où même David a aidé d'autres. C'est devenu un endroit où il s'est organisé, formé une petite armée. C'est devenu un quartier général. Et c'est devenu un bureau de rédaction de psaumes. Et j'aimerais juste encourager ce soir. On a tous les enfants de Dieu, tous ceux qui aiment le Seigneur, vont avoir des grottes dans leur vie. Ce n'est pas un endroit pour te décourager. Ce n'est pas un endroit pour baisser les bras. Ce n'est pas un endroit pour te replier sur toi-même, te refermer sur toi-même. C'est un endroit pour t'ouvrir à Dieu. Crier à Dieu. Invoquer Dieu. Chercher Dieu. Dans ta solitude, ne perds pas ton temps. cherche la face de Dieu. Ne fuis pas sur toutes les choses que le monde peut t'offrir. Prends ce temps pour chercher Dieu. Et le Seigneur va faire une œuvre dans ta vie. Et le Seigneur va te relever. Et le Seigneur va se servir de toi. Et j'aimerais vous dire ceci ce soir. Il n'y a pas mieux pour encourager quelqu'un que quelqu'un qui est passé par là. J'ai raison. Parce que tu peux t'ouvrir à quelqu'un qui n'a jamais rien vécu et il peut compatir. Mais, je ne suis pas nommé, mais un frère juste avant la réunion, on parlait dans les bureaux et je vais le dire, parce que je l'aime trop, c'est José. Pasteur José. Qui accompagnait quelqu'un qui vivait une épreuve très, très difficile. Et après l'entretien, il vient me voir, il dit, pasteur, il dit, Christian, il dit, je comprends cette dame. Parce que Rebecca et moi, on est passé par là. On est passé par là, toi. Là, je suis pas en train de dire qu'il faut que toutes les épreuves du monde te tombent dessus pour que tu comprennes. Mais d'accord. Mais parfois, Dieu peut se servir de l'un ou de l'autre. Ou quelqu'un qui a traversé un cancer et qui peut t'encourager. Quelqu'un qui a traversé un deuil peut t'encourager. Mais une chose est certaine, à un moment donné, Dieu permet un temps dans ta vie où tu te dis, mais pourquoi est-ce que je suis là? Fais confiance au Seigneur. Confie-toi en Dieu. Cherche sa face. Je ne peux pas être plus simple. Revenir aux bases du christianisme ce soir. Cherche le Seigneur. Cherche plus quelle est ta destinée. Cherche Dieu. Ta destinée, c'est de connaître Dieu et le faire connaître. Ce n'est pas plus compliqué, le christianisme. Oui, mais qui suis-je? C'est des questions existentielles que je... Je ne serais peut-être pas d'accord, mais je vais dire... Je ne me suis jamais posé ces questions, moi. Ah, mais t'es qui vraiment Christian? Je me suis jamais posé ces questions. Je veux juste aimer Jésus, le servir. Voilà, pas plus compliqué. Je suis déçu, je suis désolé de vous avoir dit ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Mais il y a des grandes questions existentielles que je ne me pose pas, en fait. Je veux juste aimer Jésus, le faire connaître. Et là où tu es présentement, prends ce temps pour chercher Dieu. La semaine dernière, j'ai terminé. La semaine dernière, Justine et moi, on a pris quelques jours de congé et nous sommes allés dans le sud. Et on a rencontré des chrétiens, on a bien sympathisé ensemble. Et j'ai passé un temps, on a passé un après-midi de qualité avec les parents, les beaux-parents de Pasteur Sammy Zokola. Et ils m'ont dit, Christian, as-tu déjà visité la fontaine du Vaucluse, c'est ça, Samy? Ouais, Samy, ouais! Fier de sa Provence. Et j'ai dit, la fontaine de quoi? C'est la fontaine du Vaucluse. Moi, je pensais qu'ils allaient m'amener sur un village avec une petite place au milieu du village avec une petite fontaine là, qui coule avec des petits oiseaux qui crachent de l'eau, tu vois, des trucs comme ça, là, un peu à l'ancienne. Et on se gare, ils me disent, il faut marcher 10 minutes, et puis il y avait une montagne, et puis et je vois un torrent. Le torrent, il faisait la largeur de la salle ici. Et les gens montent, il y a des gens du monde entier qui venaient voir ça, ils prenaient des photos. Je dis, mais où est-ce qu'il m'amène? Et tout. C'est l'hiver, il n'y a pas de feuilles dans les arbres, c'est pas très beau. La Provence, c'est beau l'été, toi. Mais l'hiver aussi, pardon. Et on arrive, on marche 10 minutes, on arrive au début, et je vois c'est quand même un immense bassin, en fait, qui bouillonne naturellement comme ça, l'eau, et qui se déverse en torrent et qui descend jusque dans la vallée en bas. Et on en parle après, tout ça. Il y a des moments où on a cherché, des scientifiques ont dit que même Cousteau, à une époque, ils ont cherché d'où vient cette eau qui sort de cette source. Et semble-t-il que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé d'où vient l'eau. Elle vient pas de la Lune, elle vient de sous terre, on est d'accord. Mais on n'a pas trouvé exactement d'où elle vient. Et je me suis posé une question, j'étais dans la voiture après, je me suis dit, comment ça se fait que ça fait 17 ans que je suis en France et personne ne m'a jamais parlé de cet endroit extraordinaire? C'est la cinquième plus grande source qui sort d'une montagne au monde. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ça fait des années que je suis là? Jamais personne. Et j'ai prêché à Avignon, j'ai prêché à des villes autour quand j'étais itinérant, j'ai prêché un peu partout. Jamais personne m'a proposé d'aller visiter cette source. Et là, je me suis dit, n'est-ce pas comme ça parfois avec le Seigneur? La source, elle est juste là, mais on ne le sait pas. On court à droite et à gauche. Et la source, elle coule, la source, elle coule. Et cette source, quand il y a moins d'eau, hein, surtout l'été quand c'est plus sec, en fait, le niveau de l'eau baisse et tu découvres qu'en fait, il faut entrer dans une grotte pour aller voir d'où vient, d'où commence la source. J'aimerais te dire ce soir, je ne peux pas être plus simple. Je vais juste t'encourager. Dans ta grotte, il y a une source. Et c'est Jésus-Christ. Et je n'avais jamais vu, perçu aussi visiblement, physiquement, cette expression de Jésus-Christ quand il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et des sources d'eau vive couleront. » Et là, j'avais devant moi ce bouillonnement d'eau. C'est cela, en fait, que Jésus voulait dire, des sources d'eau vive, elles sont comme vivantes. C'est comme si c'était vivant. Ça, tu vois, ça sortait de terre et tout, et puis ça se déversait en bas dans la vallée. C'était impressionnant. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces paroles de Jésus. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Dans ta caverne, dans ta grotte, dans ce que tu vis, dans ta saison de vie, où il y a peut-être cette solitude, ces incompréhensions, le Seigneur est là. Il est la source. Tu n'as pas besoin de courir à droite et à gauche. Tu n'as pas besoin. Oui, Dieu peut se servir de toutes sortes de choses. Mais la source, elle est en Jésus. Dans ta caverne, dans ta grotte, dans ce que tu vis même, il y a la source. Le Seigneur est là. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Tu as posé cette parole d'encouragement sur mon cœur pour mes frères et sœurs. Hallelujah. Un homme s'est retrouvé dans une caverne. Je ne le vois pas s'être confié en toi. J'entends, je lis qu'il est allé vivre dans une caverne et puis je n'entends plus jamais parler de lui dans la Bible. Et un autre homme a fui aussi dans cette caverne. Il a dit, « Seigneur, je fais de toi mon refuge. » Hallelujah. Et Seigneur, tu as été une source pour lui, Seigneur. Alors Seigneur, je veux prier pour chaque personne qui est ici ce soir. David dit ceci. Dans le fond, voici ce qu'il a écrit dans sa caverne. « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra le secours du ciel. Dieu enverra sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions. Je suis entouré d'hommes qui crachent le feu. » Bien sûr, c'est une image, mais il est entouré de ces hommes qui voulaient sa peau. « Des hommes dont les dents sont des lances et des flèches et la langue une épée tranchante. » Quelle méchanceté entourait David. « Élève-toi au-dessus du ciel, Seigneur mon Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un piège sous mes pas pour me faire plier. Ils avaient creusé une fosse, mais ils y sont tombés. » Et David a fait une pause. Et puis il a écrit plus tard ceci. « Mon cœur est rassuré, ô Dieu. Mon cœur est rassuré. » Hallelujah. Tu peux le dire ce soir par la foi. Même si ton cœur ne l'est pas encore, tu peux le dire par la foi. « Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, ma luth et ma harpe. Je veux réveiller l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. » Quel acte de foi ce jeune homme a-t-il eu? Il a eu raison. Hallelujah. On chante ces psaumes dans le monde entier. Car ta bonté s'élève jusqu'au ciel et ta vérité atteint les nuages. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire resplendisse sur toute la terre. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Et Seigneur, je veux te prier pour quelqu'un qui serait ici ce soir. Au fond de sa caverne, au fond de sa grotte, de sa solitude, qui, dans la peur, perplexe, Seigneur, peu importe ce qu'il vit ou ce qu'elle vit, Seigneur. Tu l'appelles, hallelujah, tu l'appelles à trouver la source dans sa grotte, dans sa caverne. Alors je te prie qu'alors que nous allons rentrer à la maison ce soir, hallelujah, qu'une personne puisse dire ce soir, je ne veux pas ouvrir la télé en rentrant chez moi, je ne veux pas ouvrir Internet, je vais fermer mon téléphone et je vais aller boire à la source. Et demain, je vais aller boire à la source. Au nom de Jésus, j'ai prié pour une personne ce soir qui avait besoin d'entendre ce message, afin qu'elle rentre chez elle. Hallelujah! et qu'elle aille trouver dans sa solitude la source. Et tu feras de cette personne, tu feras de mon frère, de ma soeur, quelqu'un même qui pourra encourager les autres. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Et gloire au Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Amen. Amen. Alléluia. C'est très important pour moi de respecter l'heure. Je sais que vous travaillez. Plusieurs sont arrivés fatigués, tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez peut-être quelques instants pour vous saluer. Et que le Seigneur soit avec vous. Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube Église Paris Métropole. À bientôt!